France Inter.
Le masque du jour fut enregistré avant que nous n'apprenions le décès de l'écrivain américain Paul Auster. Les critiques n'ont donc pas pu évoquer son œuvre. Mais j'ai souhaité vous faire entendre à nouveau sa voix avant notre générique. Paul Auster au micro d'Arnaud Laporte pour une masterclass diffusée sur France Culture en 2020.
J'ai commencé à écrire des poèmes quand j'avais 9 ans. Je me souviens très bien une journée en avril. L'air était doux et j'ai écrit mon poème sur le printemps. Bon, même si c'était horrible, je crois que les premières lignes en anglais étaient quelque chose comme « Spring is here, give a cheer », des choses comme ça. La sensation d'écrire m'a donné une nouvelle expérience d'être plus connecté aux choses autour de moi. C'était une sorte de révélation. Cette sensation d'être entrelacé, entremêlé des choses du monde, c'était une sorte d'exaltation, peut-être.
Le masque et la plume. 5 livres et autant de coups de cœur dans les rayons du masque de ce jour avec à la tribune Arnaud Vivian du magazine Transfuge, de la revue Regard et de la radio France Inter avec son édito culture chaque mercredi à 9h40. Raphaël Léris du journal Le Monde, Blandine Rinkel, autrice et créatrice du compte Instagram Intérieur Nuit où tu publies tes chroniques littéraires, et Laurent Chalumeau, auteur. Les nouveaux livres de Salman Rushdie, Édouard Louis, Joyce Carol Oates, Hervé Le Tellier et Alexandre Labruf vont être débattus dans l'heure qui suit. Il sera donc question de liberté d'expression, de mémoire, d'un rouge à lèvres Midnight Rose et de romancier qui s'invente détective. Avec nos enfants de 13 et 17 ans, nous avons bien ri, écrit Emma de Genève. Nous avons bien ri en lisant à voix haute quelques passages d'Animal sauvage de Joël Dicker. Je rappelle qu'Animal sauvage, dernier roman de Joël Dicker, a divisé la tribune du masque avec 3 contre et 1 pour. Emma et ses enfants ont vraisemblablement choisi leur camp. Troublant, poursuit-elle, cette omniprésence dans les médias pour un livre plat, fade, pauvre et pathétique. Fin de l'énumération. L'essentiel des courriers de la semaine concerne ce livre de Dicker Joël, qui continue de remporter un grand succès en librairie. Marilus Guilini déplore, je cite, le mépris des critiques et rappelle que Joël Dicker est un auteur populaire qui ne prétend pas faire de la grande littérature. De son côté, Annette assure être de bonne volonté. J'ai fait des efforts pour le livre, mais je n'ai pas réussi à finir. Le reste du courrier s'enthousiasme pour de jeunes autrices et auteurs présentés à la tribune. Renaud Luquet nous remercie pour la découverte d'Alien de Phoebe Adjimarcos-Clark, par ailleurs en lice pour le prix du livre Inter. Sur Instagram, Samuel me dit avoir été emballé par Créatine de Victor Malzac, monologue délirant d'un jeune homme qui se fantasme en Arnold Schwarzenegger. Et ce jeune auditeur conclut « Je ne connaissais ni lui ni vous, mais c'est décidé, je vais vous écouter ». Et arrêter la muscu. Enfin, plusieurs courriers saluent vos coups de cœur. Françoise Dulas de Pau remercie Patricia Martin pour avoir choisi Rousse, les beaux habitants de l'univers, beau roman de Denis Infante qui met en scène une renarde intrépide. Florence de Toulouse raconte que sa lecture lui a permis de s'échapper du métro quand elle part au boulot. Et Karine adresse une lettre, je cite, à Monsieur Chalumeau. Depuis votre entrée au masque, écrit Karine, je vous écoute avec circonspection, je veux simplement savoir à qui j'ai affaire. Laurent, nous sommes plusieurs autour de cette table à bien connaître ce dossier. Et Karine écrit « Quand vous avez conseillé « L'autre côté de la rue » de Michaël Olivier, j'ai d'abord tendu l'oreille au mot « littérature jeunesse ». Et voici le déroulement des faits. À 20h02, j'ai acheté le livre sur le site de ma librairie grenobloise. Ce matin, je suis allée le chercher et je viens de le lire. Aussi, Monsieur Chalumeau, je dois vous dire que ma confiance vous sera désormais absolue. Bienvenue.
T'en fais une.
J'ouvre cette tribune avec un livre consacré événement avant même qu'il ne paraisse, en raison des circonstances dans lesquelles il a été écrit, à savoir la tentative d'assassinat de son auteur. L'identité de cet auteur, à savoir Salman Rushdie, qui vit sous la menace d'une fatwa lancée par l'ayatollah Khomeini il y a 35 ans. Livre événement aussi Par l'ampleur de sa diffusion, mondialement coordonnée, et par son relais médiatique, il s'intitule « Le couteau, réflexion suite à une tentative d'assassinat ». Salman Rushdie, il fait le récit de l'attaque qu'il a subie le 12 août 2022, tandis qu'il donnait une conférence sur l'importance de préserver la sécurité des écrivains. Salman Rushdie relate l'expérience de sa propre mort imminente, les blessures, la rééducation, l'amour de ses proches, celui de son épouse en particulier. Il imagine rencontrer son agresseur qu'il désigne par la lettre A. L'auteur n'est pas dupe de ce qu'il représente. Je le cite, « une poupée Barbie vertueuse, amoureuse de la liberté, l'une des ambitions du couteau, étant justement de remettre l'écriture au centre. » Arnaud, qui a ouvert déjà son petit carnet.
Écoutez, j'ai pas trouvé que c'était vraiment un très bon livre de Salman Rushdie, alors que j'adore Salman Rushdie. Il est même parfois embarrassant, surtout lorsque il imagine un dialogue fictif avec son agresseur. Là, on est un peu gêné.
Pourquoi t'étais un peu gêné, toi?
Parce que on sent bien qu'il essaye de donner à son agresseur quelques répliques qui fonctionneraient, mais c'est quand même du mauvais théâtre, c'est-à-dire qu'il se garde les meilleur punchline, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qui, à mon avis, n'était pas nécessaire du tout dans ce livre. On a beaucoup comparé le couteau de Salman Rushdie au lambeau de Philippe Lançon, à juste titre. Simplement, je pense que là où Philippe Lançon avait réussi à transformer sa tragédie, son calvaire, en une expérience littéraire, Salman Rushdie ne le fait pas. C'est pas très grave tout ça, hein. On voit bien que le livre a d'autres raisons d'être. Et je pense que la première raison qu'il a, c'est de vouloir dire merci, tout simplement. De vouloir dire merci à son épouse. Et je pense que les pages les plus réussies de ce livre sont celles où il raconte justement le début de son histoire d'amour avec cette poétesse afro-américaine avec laquelle il venait juste de se marier, hein, lorsque cette agression a eu lieu. Il veut remercier sa famille, leur famille, hein, d'ailleurs, à tous les deux. Après, encore une fois, Salman Rushdie a beaucoup expliqué, et d'ailleurs il le dit encore dans ce livre, qu'il avait la nécessité de l'écrire pour pouvoir tourner la page.
Et se réapproprier cette histoire.
Et maintenant, on attend que Salman Rushdie écrive un nouveau roman comme il sait si bien les écrire.
Laurent.
Ma foi, ces pages confirment ce qu'on savait déjà, à savoir que Salman Rushdie est une intelligence et un talent hors du commun. Il y a des pages absolument extraordinaires, brillantes, poilantes même, d'une exquise méchanceté. Il y en a aussi d'autres qui peuvent sembler assez complaisantes. On a l'impression que, sachant qu'il existe des millions de gens qui le haïssent et veulent sa mort sans vraie raison, de son côté, Salman Rushdie se surkiffe lui-même pour compenser. Alors certes, les auteurs se détestent rarement, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Mais là, en matière de contentement du self, on atteint des sommets où l'oxygène se raréfie quand même. Et dans ce livre où il raconte des choses...
À quoi tu penses quand tu dis ça?
Ah bah, c'est assez constant. Par exemple, dans ce dialogue imaginaire où effectivement il se réserve les meilleures blagues, il se bat lui-même en mayonnaise. L'arbitre laisse jouer parce qu'il a été agressé, mais bon, le carton des manches quand même, c'est un peu triché. Et comme il raconte des choses terribles, on est intimidé, mais on se dit que c'est peut-être de bonne guerre qu'un homme qui a été poignardé 15 fois peut écrire ce qu'il veut, comme il veut, dans le livre qu'il en tire. Il a tous les droits stylistiquement et thématiquement, sauf que Salman Rushdie est lui-même devenu liturgie. C'est-à-dire que la dynamique du blasphème s'inverse et le moindre bémol, la moindre circonspection va paraître obscène et sacrilège. Lui reprocher quoi que ce soit devient impossible et d'ailleurs je me tais.
Mais Raphaël Léris, elle, parle.
L'embarras d'Arnaud, je le partage tout à fait sur cet échange. Après, il écrit à un moment donné qu'il n'a pas envie qu'on soit aimable avec ses livres en disant soyons sympas avec Salman quand même, après ce qui lui est arrivé. Alors peut-être que tu jugeras que c'est une coquetterie. Néanmoins, c'est écrit et par ailleurs, bon, la critique s'exerce comme elle le veut. Alors peut-être que tu n'auras pas une grande interview.
Le refus des honneurs est un désir d'être loué deux fois, disait La Rochefoucauld qui s'y connaissait.
Très bien. Néanmoins, le livre existe. Et moi, je dois dire d'abord que je suis très émue que ce livre soit là. Sa matérialité me touche beaucoup. Le jour de l'attaque contre Salman Rushdie, j'ai dû écrire pour mon journal un article dans la nuit sur un portrait de Rushdie qui, dans la nuit, aurait pu devenir une nécrologie. En fait. Et donc, j'ai sur le bureau de mon ordinateur un fichier intitulé Rushdie vivant, un fichier intitulé Rushdie, qui est resté vide parce que j'arrivais pas à écrire la version nécrologie de cet article, parce que c'est tellement insupportable ce qui lui est arrivé. Et donc à 4 heures du matin, on a su qu'a priori il allait vivre, alors avec des séquelles terribles, en tout cas que la nécrologie n'était pas à l'ordre du jour. Tout ça pour dire que nous rappeler quand même que c'est un miracle l'existence de ce texte-là, et que en fait c'est un livre effectivement assez modeste, c'est un livre qui nous dit je veux me réapproprier mon histoire, qui a l'élégance de dire je crois pas que la littérature soit là pour faire de la thérapie, et en même temps peut-être c'est possible. Donc moi, cette modestie-là, le fait de trouver un peu de la grâce, de la malice de Rushdie dans ce livre-là, ça me suffit.
Blandine.
Moi, j'ai eu l'impression d'avoir affaire à un livre très frontal, où en fait Salman Rushdie fait face à l'attaque et se retourne jamais, y compris dans sa langue en fait. D'ailleurs, il le dit dans une parenthèse au tout début, il dit « j'ai continué à faire face à mon agresseur, je ne lui ai pas tourné le dos, d'ailleurs je n'ai aucune blessure dans le dos ». Il dit à la fin, toute fin du livre aussi, qu'il éprouve une pointe de triomphe. Et donc, en fait, au début, moi, quand il décrit l'attaque, j'ai trouvé ça passionnant parce qu'il décrit de face l'attaque. Il voit ce fantôme qui revient du passé. Il y a des images quand même assez fortes. Il voit soudain un dôme de corps au-dessus de lui. Des images fortes et assez mystérieuses.
Et d'ailleurs, il se compare à ce moment-là à un plat saignant sous une cloche de restaurant.
Mmh. Ah oui.
Quand même. Et il a une pensée, c'est « Oh, pensais-je, mon beau costume Ralph Lauren ».
Et il se compare aussi à l'image Voyage dans la Lune de Georges Méliès, ouais. Qui est d'ailleurs dans le livre cette lune éborgnée à l'œil droit, comme lui. Et donc, cette première partie, je l'ai trouvée assez passionnante, en fait. J'ai vraiment appris des choses sur cette attaque. Et ensuite, j'ai l'impression qu'il reprend littéralement ses esprits. Et on perd en trouble, on gagne peut-être en lumière et en esprit des lumières, ça il le dit, il le répète, mais aussi en contentement de soi. Donc je rejoins peut-être ce qui a été dit ici et là. Mais c'est vrai que là où, dans Le Lambeau de Philippe Lançon, l'attaque de Charlie Hebdo était venue apporter une mélancolie et un sens de la vanité en fait assez désarmant. Là, au contraire, on a l'impression que l'attaque, le fait que son écriture, il sort encore plus... Je sais pas, plus sûr de lui peut-être. C'est venu peut-être renforcer la certitude de soi. Et c'est évidemment individuellement, on le comprend, et je partage. Enfin, moi aussi, j'étais très contente que ce livre existe. Et voilà, je trouve ça très beau. Mais peut-être que littérairement, je trouve qu'on y perd un peu.
Raphaël,
non, il y a une différence entre le livre de Philippe Lançon et le livre de Salman Rushdie, c'est qu'il y a 3 ans qui sont écoulés entre l'attaque de Charlie Hebdo et Le Lambeau, et 1 an et demi à peu près entre l'attaque de Salman Rushdie et l'écriture du couteau. Donc il y a un temps de métabolisation qui est pas le même. Et par ailleurs, Salman Rushdie, c'est pas vraiment des réflexions sur l'attentat. Ce qui est intéressant, c'est la description. Les réflexions, elles sont dans son autobiographie, qui est Joseph Anton, qui est à la 3e personne, qui est sur son rapport politique à ce dont il a été l'objet, 1000 fois plus intéressant, assurément.
Le couteau de Salman Rushdie, traduit de l'anglais par Gérard Medal, est publié chez Gallimard. Monique Sévade, c'est le titre du nouveau roman autobiographique d'Edouard Louis, 10 ans après la publication d'Eddie Bellegueule, qu'il avait fait connaître alors qu'il avait 21 ans. Monique Sévade est le 2e livre qu'Edouard Louis consacre à sa mère. D'ailleurs, il se réjouit qu'il s'agisse en quelque sorte d'une commande de sa part, que lui, le fils, continue de raconter sa transformation à elle. Au début du livre, Monique vit avec un homme qui l'insulte, lui tape dessus, alors qu'elle avait réussi à quitter un mari violent, lui aussi. Édouard Louis organise l'évasion de Monique avec des amis. Il finance sa liberté, puisque l'un des propos du livre, c'est justement le concret de la liberté, comme avoir par exemple une clé et le logement qui va avec. C'est donc l'histoire d'une femme en mouvement qui réussit à partir et qui se réconcilie avec son fils, Blandine.
Moi, j'ai été très émue par ce livre. Livre d'Edouard Louis, donc, avec une écriture simple, limpide, mais comme de l'eau, je dirais. Enfin, je veux dire urgente, comme de l'eau aussi. C'est le premier livre, je crois, qu'il écrit en dialogue et soucieux, à mon avis, du dialogue qu'il tisse. Alors, dialogue avec qui ? D'une part, dialogue avec sa mère, qu'il montre comme une femme pauvre. Et c'est vrai que les pages sur le coup très concret d'une évasion d'un foyer violent sont passionnantes. Donc, d'une femme pauvre, mais qu'il ne veut pas montrer comme une pauvre femme. Il veut lui laisser prendre le dessus sur l'histoire, mais dialogue aussi avec lui-même. Je crois que Édouard Louis, de livre en livre, s'amende, se corrige, se réécrit. Et dans ce livre précis, il sait que la frontière, je le cite là, entre aider et écraser est très fine. Et il ne voudrait pas en fait réifier sa mère. Il ne veut pas en faire une perdante. Il veut lui laisser prendre le contrôle. Et c'est un livre qui finit par le mot « joie ». Ce qui n'est pas évident. Chez Edouard Louis, on sent qu'il y aspire à la joie, mais que ce n'est pas évident, ce n'est pas une donnée. Et il y a une scène clé, en fait, moi, qui m'a beaucoup touchée, où Edouard Louis parle avec sa mère. Alors, à ce moment-là, elle a fui cet homme violent. Et elle lui dit, je suis désolée que tu aies eu à subir tant de violence, que ça a été si long, quoi, cette émancipation. Et elle lui répond avec une candeur qui est assez désarmante. Elle lui dit, mais c'est parce que j'en ai bavé que je suis heureuse. Et elle ajoute, moi je m'en fous du passé, je ne supporte pas ceux qui pleurent sur leur passé. Et Édouard Louis, qui a tant écrit, lui, sur son enfance douloureuse, il regarde sa mère rire comme ça, il lui dit, tu as raison, et il pense en lui-même, elle est plus forte que moi.
Arnaud,
le plus beau, le plus réussi, c'est le titre, Monique s'évade. Il y a toutes les voyelles du français sauf le U, c'est parfait. Maintenant, je comprends en t'écoutant que tu viens de dire qu'il écrit simple comme de l'eau. Comme j'aime pas trop l'eau, je vois mieux finalement. Pour des raisons professionnelles, j'ai dû lire tous les livres d'Edouard Louis. Donc c'est le deuxième, La source sa mère. On l'avait quitté, place Saint-Sulpice, elle fumait des clopes avec Catherine Deneuve, tout allait bien. Et puis, soudainement, ça va plus du tout. Il y a une honnêteté, ça, on peut pas lui enlever ça. On ne sait pas jusqu'à quel degré, hein, parce que moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de malhonnête dans les livres d'Edouard Louis. D'une certaine manière, il le confirme ici, puisque il raconte, c'est une scène assez étonnante, et encore une fois, il faut saluer son honnêteté, comment sa mère s'est retrouvée, lorsqu'il présentait son premier livre pour en finir avec Eddie Bellegueule, devant des étudiants, il découvre avec surprise que sa mère est là. Et qu'il s'enfuit. Il ne veut pas, et en fait, il ne veut pas discuter avec elle. On peut penser qu'il a exagéré, pour en finir avec Eddie Bellegueule, son enfance difficile. Qu'il a exagéré le rapport avec ses parents, avec ses frères et ses sœurs, avec lesquels d'ailleurs il ne cesse de se rabibocher, parce que dans le livre sur sa mère, le précédent, il se moquait de sa sœur et de son frère camionneur. Là, il est bien content qu'ils viennent avec leur camion depuis la Picardie pour déménager les meubles place Saint-Sulpice. Donc il y a toujours ce mouvement là comme ça chez
Edouard Louis de va-et-vient
qui fait qu'on ne sait pas. Et là, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que pour la première fois, ce qu'il explique, c'est que le succès de Pour en finir avec Eddie Bellegueule l'a rendu riche et lui permet aujourd'hui de financer l'évasion de sa mère. C'est que pour la première fois, il parle d'argent. Il donne quand même quelques chiffres. C'est important là de dire que ça lui a coûté 2000 euros le loyer de la petite maison en Picardie et puis 300 euros pour la machine à laver, etc., etc. Donc, si vous voulez, vous êtes là quand même dans un amour filial assez particulier et... Et il y a cette phrase que moi je trouve magique, parce que je me dis quand même, cet Edouard Louis, il a une manière de résoudre son Oedipe magnifique, c'est qu'il dit à sa mère, bon ben maintenant c'est fini avec les hommes, hein. Tu vas arrêter, si tu as besoin, il le dit pas comme ça, mais si tu en as besoin, on te payera un escorte, donc... Non mais c'est ce qu'il écrit. Et donc là, je me dis quand même, c'est fabuleux d'arriver à avoir, encore une fois, à régler son Oedipe aussi simplement que ça.
Laurent.
C'est rigolo ce procès en exactitude qui, depuis 10 ans, est intenté à Edouard Louis. On lui reproche d'enjoliver, ou dans son cas plutôt de... d'empirer, ou comme pourraient dire les Suisses, d'enjoliver en mal. Peu importe de savoir si ce qu'il raconte est factuellement exact, l'important c'est de voir si, in fine, le texte, lui, dit vrai, ou dit le vrai.
Et selon toi ?
Et de mon point de vue, c'est absolument le cas. Je trouve que c'est un livre qui dit des vérités économiques, politiques, esthétiques, certaines dérangeantes. La façon dont il s'y prend elle-même est très intéressante, parce que, clairement, Edouard Louis est pris de littérature, il a envie même de devenir grand écrivain. Et pour autant, la littérature, il la brutalise, il la défie, il veut l'obliger à faire des choses contre-intuitives pour elle, et notamment la façon dont il se met sciemment en grève du style, dont dont il sabote et boycotte le bien écrit, soit dit avec des guillemets, ça donne un texte dont la facture est en adéquation parfaite avec le propos. Donc en dépit de son titre merveilleux, hein, Monique s'évade, Monique n'est pas de la littérature d'évasion, au sens où on l'entend habituellement, mais c'est quand même une lecture palpitante.
Raphaël, pour terminer sur Monique s'évade, Édouard Louis.
Il y a une phrase de Scarwell que j'adore, qui est « Les enfants commencent par aimer leurs parents, devenus grands, ils les jugent, quelquefois ils leur pardonnent ». Et j'ai l'impression que le mouvement de l'œuvre d'Édouard Louis auquel on assiste, c'est celui-là. Et puis avec l'étape suivante qui est, à un moment donné, peut-être qu'il se pardonnera d'avoir suivi ces étapes-là. Mmh. Et que c'est de ça dont il est question, de livre en livre. C'est un texte qui me touche beaucoup, y compris sa révolte contre la littérature, et surtout son refus de l'implicite. Je suis pas sûre d'avoir envie de lire tous les jours des livres qui utilisent autant de parce que, puisque, donc, parce que sa manière de démonter les logiques de domination, c'est d'expliquer les choses par leur corrélation et donc de mettre des conjonctions de coordination de ce type. Mais la manière dont lui s'y prend pour ça, dont il se cabre contre le Bostil, comme le disait Laurent, je trouve que ça fait quelque chose d'extrêmement intéressant. J'ai l'impression d'être une vieille tata qui pique, qui regarde grandir Édouard Louis depuis 10 ans, et je trouve ça très très émouvant de voir ce qu'il fait, ce qu'il
Monique s'évade d'Édouard Louis est édité au Seuil. La suite se passe dans un hameau de la Drôme, près de Dieulefit. Hervé Le Tellier y achète une maison et découvre qu'un nom est gravé sur un mur de la bâtisse. Ce nom, c'est André Chaix, et c'est un sésame pour l'écriture puisqu'il conduit Hervé Le Tellier à mener une enquête sur cet homme qui fut résistant avant d'être abattu par les nazis à l'âge de 20 ans le 23 août 1944. Mais ce livre n'est pas seulement la reconstitution d'une vie, puisqu'il mêle fiction, passages autobiographiques, faits historiques, réflexions philosophiques et des images aussi, des affiches, des lettres manuscrites, des photos au bord dentelées où on voit André et Simone, la jeune femme qu'il a aimée. C'est aussi un livre qui en convoque plein d'autres, et des auteurs, Malraux, Sandrard, Pierre-Henri Rocher, des films, des musiques. Ça s'intitule donc « Le nom sur le mur », qu'Hervé Le Tellier signe 4 ans après « L'anomalie », roman lauréat du prix Goncourt et très grand succès de librairie, avec 1,5 million d'exemplaires vendus. Laurent.
Il sort beaucoup de livres ces derniers temps où un auteur ou une autrice d'aujourd'hui s'empare d'une figure tragique des années noires et il trouve prétexte à faire un numéro de claquette. Alors ça peut donner parfois des résultats assez véreux ou des résultats excellents, comme de mon point de vue ici, parce que c'est un texte que j'ai trouvé très élégant, très intelligent, très bien exécuté, si j'ose dire, compte tenu du sujet, mais qui évite tout ce qui aurait pu être scabreux ou relevé de l'instrumentalisation du malheur d'autrui. La force de Le Tellier, c'est qu'il choisit un personnage de la bonne taille et qu'il sait en permanence rester à la bonne distance. Et surtout, ça n'étonnera pas celles et ceux qui savent qu'il est membre de l'Oulipo, et donc qu'il est rompu au jeu langagier et aux exercices de style. Il sait, je trouve, magistralement alterner les pleins et les déliés et moduler son ton en fonction du propos. Il sait être léger à propos de choses évidemment gravissimes, sans en insulter la gravité, mais sans laisser non plus cette gravité-là venir plomber l'ambiance. Son résistant tué il y a 20 ans lui fournit aussi matière de très belles considérations sur le courage, l'engagement, la jeunesse, le sacrifice, le bien, le mal, la coiffure. Un tout petit détail, les éditions Gallimard pourraient embaucher des fact-checkers, parce qu'à chaque fois ou presque que je lis un livre de chez eux, c'est bourré d'inexactitudes. Pour info, Billy Wilder est d'origine autrichienne, pas allemande, et les Rolling Stones étaient 5.
Blandine.
Oui, j'ai trouvé ça très beau, le fait de profiter de sa visibilité nouvelle, hein, quand même, parce que Hervé Le Tellier n'avait pas cette visibilité-là avant le Goncourt.
Avant le Goncourt, avant l'anomalie, oui.
Pour faire, là où on l'attend, avec un livre oulipien, avec une fantaisie narrative, voilà, comme il a le secret, pour faire l'inverse, en fait, de ce qu'on attend de lui, et faire un livre humble sur un parfait inconnu, mort à 20 ans, pour un idéal de résistance. J'ai trouvé ça beau, et j'ai trouvé le fait que le livre soit, comme tu le dis, Laurent, écrit avec une délicatesse de dentelière, un souci de justesse constant. Quand il colmate une incertitude avec de la fiction, il le dit. Parfois, quand il propose au lecteur de sauter des lignes, par exemple, il va parler de l'expérience de Milgram, et il dit « En fait, si vous êtes déjà au fait de ça, passez des pages. » Parfois, il fait un retour à la ligne qui pourrait sembler un peu grandiloquent, alors qu'il donne le titre du livre. C'est qu'il fait un retour à la ligne en disant le nom sur le mur, hop, à la ligne. Et il précise que ça le met mal à l'aise, qu'il ne voudrait pas, en fait, naître ni esthétisant, ni grandiloquent, mais qu'il entend quand même prendre sa part de responsabilité politique en tant qu'auteur lu à grande échelle Et voilà, cette humilité souriante avec laquelle il écrit donne au livre une grâce assez inattendue.
Raphaël ?
Je suis très, très d'accord avec mes camarades, à ceci près que moi j'aime aussi dans ce livre ce que je perçois comme des imperfections, une sorte de débordement, c'est-à-dire que quand il ramène à aujourd'hui, quand il parle du Front National, ça a quelque chose d'un peu grandiloquent, d'un peu maladroit, et en même temps ça me touche beaucoup, la manière dont c'est une forme d'affect qui déborde. Et ça donne
parce qu'il rappelle les origines nazies du Front National, devenu Rassemblement National.
En fait, Le Pen était le moins à droite et le moins criminel de tous ceux qui ont
fondé. Oui, c'est ça. Il rappelle que l'un des fondateurs, Pierre Bousquet, fut l'un des 300 Waffen-SS qui a protégé le bunker d'Hitler jusqu'au bout, à Berlin, en 1945, contre les soldats de l'armée rouge. Il cite comme ça d'autres cofondateurs de premier plan du Front National, rescapés du radeau nazi, comme il dit.
Voilà, quand il parle de la loi de 1953 qui efface les ardoises et qui dit c'est bon, ne parlons plus de tout ça et disons que la France est globalement bien comportée. Et donc, il y a quelque chose d'imparfait dans ce texte-là qui me touche autant que ce que je trouve très réussi littérairement. C'est le contraire de ce qu'on pourrait imaginer d'un livre de Loulipo, donc dont Hervé Le Tellier est président, auquel on peut reprocher souvent d'être froid, sans affect. Là, ça déborde d'affect. Enfin, voilà, je trouve ça très réussi, y compris dans ce qu'il est un peu moins.
Arnaud ?
Les mauvaises langues pourraient dire, évidemment, que faire un livre sur un jeune homme né en 1924, donc il y a juste un siècle, mort à 20 ans en 1944, au moment où on fête le 80e anniversaire du débarquement, qu'on se dit, on pourrait se dire, bon, Loulipo, effectivement, il maîtrise bien les chiffres tout autant que les lettres. Mais ça, c'est les mauvaises langues qui diraient ça, parce que les bonnes langues diraient que l'ancien militant trotskiste qui a été Hervé Le Tellier donne ici un grand livre antifasciste à un moment où partout en Europe et y compris en France, on assiste à la renaissance d'un fascisme décomplexé, mais aussi un nazisme décomplexé, puisque on voit un maire, par exemple, faire le salut nazi en plein conseil municipal. On voit que des policiers portent des tatouages ou des insignes nazis, des policiers français aujourd'hui. Et tout ça, on pourrait se dire, ça va être sérieux, pontifiant, grave, et pas du tout. Et ça, c'est la magie quand même là d'Hervé Le Tellier, et c'est parce qu'il utilise une figure de style qui est la digression. C'est-à-dire qu'il se permet de faire trois pages sur le tournage du Titanic, un film financé par Goebbels. Les Allemands voulaient faire un film sur le Titanic, et il nous explique toute cette histoire qui est absolument incroyable. Et en même temps, il met de l'intime. Il parle de sa fiancée qui elle-même s'est suicidée à l'âge de 20 ans. Et tout ça, comme ça, c'est merveilleux, la manière dont il fait ça, avec à la fois une modestie de fabricant littéraire, mais en même temps quelque chose de très fort dans le propos général, encore une fois, un livre antifasciste. On se demandait ce que Hervé Le Tellier pouvait bien écrire après l'Anomalie. Maintenant, on le sait, il a écrit un grand livre.
Humble et plein de colère. Le nom sur le mur, donc, d'Hervé Le Tellier, c'est chez Gallimard. La femme aux 100 romans, c'est le titre d'un documentaire qui lui est consacré et qui est d'ailleurs toujours en ligne sur arte.tv. Je veux parler de l'écrivaine américaine Joyce Carol Oates. Son nouveau livre s'intitule 48 indices sur la disparition de ma sœur. Le 11 avril 1991, la jeune Marguerite Fulmer quitte la maison familiale pour se rendre à son atelier. Elle est sculptrice et peintre et elle ne reviendra plus jamais. En 48 chapitres, comme les 48 indices du titre, Georgine, sa sœur cadette, examine les faits, les personnes, les objets qui pourraient éclairer la disparition de Marguerite. Donc c'est un roman comme un jeu de pistes où s'assemblent des pièces qui composent deux portraits, celui de la disparue, Marguerite, belle, talentueuse, affectueuse, etc. et celui de celle qui reste, Georgine, moins aimée, moins belle, moins talentueuse, moins quoi. Et en revanche, elle a un plus, c'est la jalousie. Arnaud.
J'ai le sentiment d'abord que c'est un petit Joyce Carol Oates à tous les points de vue, c'est-à-dire en termes de pagination pour commencer. Elle a l'habitude de faire des livres encore plus volumineux. Et puis des fois, on se dit quand même qu'elle écrit un peu vite. Par exemple, page 39, elle compare les nuages à une flottille dépenaillée de bateaux à voile. Et puis, deux pages plus loin, elle compare des immeubles à des frégates chevauchant les vagues d'une mer intérieure. Et là, on se dit, elle fait beaucoup de bateaux quand même en deux pages dans les comparaisons. Après, il y a quelque chose qui fonctionne, évidemment, hein, c'est quand même une romancière de talent. Il y a quelque chose de psychotique dans la narratrice, évidemment, qui a ce modèle de sœur. Lacan parlait de frérocité pour parler des problèmes entre frères. Bon, là, ça n'existe pas avec le mot sœur, mais enfin, on sent évidemment cette violence jalouse sous-jacente avec la figure du père, etc. Tout ça est assez bien mené, et en même temps, il manque quelque chose pour que ça fonctionne vraiment très très bien.
Blandine ?
Non, moi j'y ai pas du tout cru. Justement, le suspense qui a l'air d'être l'intérêt quand même du livre n'a pas du tout opéré sur moi.
Page 30, c'est...
Page 30, tout s'est arrêté. Non, en fait, ça m'a fait penser à un groupe de musique que j'avais vu une fois sur scène et qui mettait au sol un marteau. Et alors, évidemment, tout le long du concert, on se demande ce qu'ils vont faire avec ce marteau. Et puis rien. C'est-à-dire que tout le concert se déroule et à la fin, rien. Et donc j'avais demandé au chanteur pourquoi ce marteau, et il m'avait expliqué que c'était pour justement créer une déception. Il me l'avait dit avec un humour assez irrésistible. Et là, ça m'a fait le même effet que le marteau, c'est-à-dire que j'ai vu quand même beaucoup d'indices de suspense. Donc déjà, ça s'appelle 48 indices, donc bon, on se doute.
Il y en a 48.
Voilà. Il y a énormément d'italique, 12 mots dans les 3 premières pages en italique, des parenthèses, beaucoup, beaucoup de parenthèses. Et donc tout ça a créé une attente quand même chez moi qui a été déçue. Et malheureusement, l'humour ne rattrapait pas complètement là où mon chanteur m'avait finalement fait rire. Là, il n'y a pas assez d'humour ni assez de sombreur en fait pour que ça rattrape pour moi cette attente déçue.
Raphaël.
Mais si on connaît déjà Joyce Carol Oates, je trouve que c'est hyper intéressant comme expérience de s'accrocher à cette voix tellement antipathique dont elle charge la barque.
Georgine, en
folie. Elle n'arrête pas de lui rajouter des caractères psychotiques qui font quelque chose quand même d'assez drôle. On a affaire à une espèce d'ado folle et un peu terrifiante, mais quand même surtout folle et revêche et énervée. Et je trouve que c'est une voix qui est intéressante, mais voilà, il faut déjà être un petit peu fan de Oates, je pense, pour avoir envie de... Ce qui est plutôt mon cas. J'adore retrouver ces espèces de petites coquetteries, des parenthèses, des tirets pour dire spectateur / voyeur, mais aussi dans la catégorie des métaphores. Je suis herpétophobe, terrorisée de manière vraiment inconsidérée par les serpents, et visiblement j'ai ça en commun avec Joyce Carol Oates. Il y a toujours des comparaisons avec les serpents. Ça arrive à la 5e ligne ici, donc je les guette.
Avec le bruit d'une nuisette.
Avec une nuisette qui
tombe
qui arrive à la 5e
comme un
ligne.
Sifflement de serpent.
Voilà, et qui est partout dans son texte. Voilà, elle en écrira sans doute d'autres, des très très beaux, et c'est pas très grave.
Laurent, pour terminer
Pour la finir, surtout. Non, moi, je trouve ça typique de ces livres où un écrivain respectable, avec des guillemets, évidemment, vient s'encanailler dans la littérature de genre en pensant que, n'est-ce pas, qui peut le plus peut le moins. Eh bien, pas du tout.
Que de la littérature de genre.
Bah, Blonde, c'est pas précisément de la littérature de genre.
Tous les autres. Enfin, le livre de Surmarine est par ailleurs un genre en soi.
Admettons que ce soit une autrice de genre. Alors, vraiment, elle a été mal orientée à la fin de la troisième. Parce que Parcoursup a décidément encore frappé. Parce que la littérature blanche est le plus et le genre le moins, l'adage ne s'applique pas, parce que la manipulation du lecteur, c'est un métier. Je parlais de la page 30 tout à l'heure. La page 30, on sait que l'assassin, c'est le commissaire. Alors, ça n'est pas divulgaché. Ça veut dire que le lecteur ou la lectrice a en permanence 3 ou 4 stations de métro d'avance sur la narration. C'est fâcheux quand on est censé tendre un fil et provoquer des sueurs froides. Donc, tant qu'à faire de passer 250 pages dans un cerveau criminel, je préfère lire Jim Thompson de Killer Inside Me. C'est mieux écrit, c'est moins chiant et surtout, c'est moins misogyne. Parce que, pardon, un auteur mâle cisgenre se pointerait avec un personnage de vieille fille frustrée aussi caricaturale et cliché, mais il serait émasculé avec les dents par des hordes wokistes, et elles auraient bien raison. Moralité, Carole, oui. Oates, peut-être, mais Joyce, alors non, pas sur celui-là.
Donc, 48 indices sur la disparition de ma sœur de Joyce Carol Oates est traduit par Christine Hochet aux éditions Philippe Ray. Et on termine ce masque-livre avec un oncle congelé, grâce à Cold Case, qui n'est pas seulement le titre d'une série télé, mais aussi celui du 4e roman d'Alexandre Labruf, l'oncle en question, et celui de la compagne sud-coréenne d'Alexandre Labruf. Une nuit de blizzard de l'année 1971, cet homme est retrouvé mort gelé dans un local à poubelle de Toronto, après s'être échappé d'un hôpital psychiatrique où il venait d'être interné. Alexandre Labruf se donne alors pour mission de remplir les silences qui entourent cette affaire. Il remonte la généalogie de sa belle-famille, l'inscrit dans l'histoire plus générale de la Corée, l'histoire d'un exil aussi vers le Canada des années 70. Et ces pérégrinations, parfois cocasses, de Labruf, détective, composent un polar, mais aussi un conte et un roman d'amour. Raphaël.
Oui, et puis également, de mon point de vue, une ode au désordre. Et c'est ce qui me plaît dans ce livre d'Alexandre Labruf, c'est que donc il y a cet oncle congelé, il y a tout ce qui ne bouge pas, et ce que le livre va s'agiter dans tous les sens, et en France, et au Canada, et en Chine, pour mettre en branle quelque chose, remettre de la vie, pour essayer d'attraper quelque chose d'une vérité. Ce que je trouve beau comme dans le côté roman d'amour de ce livre, c'est que une histoire d'amour, ça serait on pourrait dire peut-être une langue partagée et une histoire partagée. Et qu'en fait, en creusant dans l'histoire de l'oncle congelé et en restituant la langue très particulière de Ming Kyung, elle a des inventions de langage qu'il restitue, qui sont sans doute souvent même des inventions que crée Alexandre Labruf lui-même. Voilà, je trouve qu'il leur crée un langage commun et une histoire commune. Et de ce point de vue-là, je trouve ça aussi assez réussi.
Arnaud ?
Ça fait un moment ça fait un moment qu'on a repéré Alexandre Labruf depuis en fait son premier livre, Chronique d'une station-service, qui était quand même soudainement quelqu'un arrivé avec une manière d'écrire nouvelle, très nerveuse, effectivement un peu qui donne l'impression d'être chaotique, mais qui est quand même très très maîtrisé à l'arrivée. Celui-ci est parfait parce que effectivement c'est un grand roman d'amour fou. C'est l'amour fou. Il y a quand même la dimension de la folie dans ce livre qui est présente et qui n'est pas absolument pas gratuite, parce que il y a quand même tout un propos sur qu'est-ce que c'est qu'émigrer. Et d'abord, qu'est-ce que c'est que changer de langue? Et donc là, effectivement, il y a tous ces jeux de mots qui font extrêmement rire quand elle dit à son mec, donc Alexandre Labruf, fauche-moi la paix, fauche-moi la paix, c'est magnifique. Où elle le traite de cowboy, c'est vraiment, c'est très chouette. Mais en même temps, c'est absolument pas gratuit. Encore une fois, il y a dans cette glossolalie, cette confusion des langues, une manière de parler très précisément de ce que c'est émigrer, puisque tous ces gens ont émigré, qui au Canada, etc. Et puis il y a un travail d'écriture qui vraiment donne une sorte de nervosité à tout ça que je trouve impeccable. C'est le contraire de Joyce Carol Oates pour le coup, c'est qu'on a vraiment une énigme à résoudre. On est là avec lui parce que c'est lui qui porte tout ça pour recoudre son couple, comme il le dit, et on est embarqué avec lui. Je trouve ça absolument magnifique.
Laurent,
j'ai trouvé que c'était un livre qui était mieux conçu que fabriqué. C'est-à-dire que il a le mérite de voir grand. L'auteur est audacieux, il est généreux, il tente plein de trucs, il se lance, il a pas peur, et ça. Ça mérite d'être souligné et salué. Il y a des choses très très réussies. Bon, déjà l'histoire est originale. La narration en zigzag spatio-temporel est vachement bien tenue. On suit le ballon en permanence, ce qui n'est pas une mince affaire. Il y a effectivement ce dont parlait Arnaud, qui est absolument délicieux. Ce sont les fautes de français de cette
de sa
femme d'origine coréenne, parce qu'elles sont drôles, mais surtout elles sont extrêmement poétiques, elles sont porteuses de sens inattendus. Et je disais qu'elles étaient poétiques. La poésie est clairement l'un des horizons que se fixe le texte. Et alors, parfois, comme je disais, il est très joliment atteint, mais par détour et par accident dans ces répliques de cette jeune femme. En revanche, quand la narration mute en poème en prose, je dois dire que l'expression « peut être plus haut que son luth » m'a plusieurs fois traversé l'esprit. Ah, donc, il y a ces audaces dont l'auteur et sans doute son éditeur sont très contents. Donc, qui suis-je pour pleuvoir sur cette joyeuse parade ? C'est un livre de littérature d'art et essai, souvent d'art, mais le reste du temps plutôt d'essai.
Blandine.
Oui, c'est un livre morcelé, joueur, qui fait penser à Maggie Nelson, qu'il cite d'ailleurs en exergue. On apprend des choses de manière désordonnée, parfois de manière peut-être trop désordonnée, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait résolu à la fin de la lecture. Il m'a semblé que c'était avant tout un livre d'amour qui cherchait un prétexte en fait pour s'écrire, et en cela il m'a beaucoup touchée, et peut-être que ce qui m'a le plus touchée, c'est l'usage du tu, en fait, qui est tout le long, il s'adresse à sa compagne en disant tu. Donc c'est une adresse intime, respectueuse, car il ne la réifie pas, il n'en fait pas un personnage, il n'en fait pas un objet. Il s'adresse directement à elle, mais respectueux aussi parce qu'il la malmène. Et peut-être que ça parle un peu aussi de l'exercice qu'on est en train de faire là, à la radio. C'est-à-dire que c'est la liberté qu'il se donne de l'écorcher, sa compagne, parfois, qu'on voit qu'il lui prête de l'attention.
Cold Case d'Alexandre Labruf, c'est publié chez Vertical. Il est l'heure de vos coups de cœur et Laurent, c'est à toi l'honneur.
Alors, je voudrais attirer l'attention sur la réédition sous forme d'intégrale des aventures de Jo, Zette et Joko, qui sont des personnages d'Hergé.
Raphaël, donc, elle fait des grands gestes.
Ah, une passion d'enfant. Ah,
bah ouais. Ça réunit cinq albums d'aventures d'un frère, d'une sœur et de leur singe de compagnie. C'est désuet. Ça ramène au temps où il semblait normal que des enfants de 11 ans ou 13 ans déjouent des complots, pilotent des avions, conduisent des automobiles, le tout flanqué d'un singe qui comprend tout ce que disent les humains. C'est exquis et problématique. Problématique parce que c'est du RG vintage dans son jus, donc la représentation des non-européens peut parfois chahuter un peu le bol alimentaire en 2024. C'est exquis parce que c'est du RG vintage dans son jus, donc la ligne claire à son plus clarifié et éclairant. Donc voilà, Josette et Joko.
De RG. Raphaël.
Alors moi c'est le dictionnaire amoureux de la traduction de José Camoun, qui est publié chez Plon.
En amoureuse de la littérature
étrangère. En amoureuse de littérature étrangère, et puis en amoureuse aussi d'un alliage que je trouve irrésistible, qui est l'érudition, la simplicité, l'humour, la fantaisie, la vitalité. Il y a tout ça dans des proportions parfaites dans ce livre, qui a des entrées extrêmement originales, qui ont des titres joueurs, déceptifs. José Camoun est traductrice entre autres de Philip Roth et de Richard Ford, auxquels elle rend des hommages magnifique, c'est un précis d'admiration merveilleux ce livre, mais c'est aussi un livre savant sur de la théorie linguistico-littéraire.
Rappelle le nom de l'autrice ?
José Camoun. Voilà, à garder sur votre table de chevet pour picorer.
Blandine.
Alors, moi c'est Jours ouvrés de Francis Navarre aux éditions de La Dilettante, et c'est un livre, je vous le donne en mille, sur la charpente. C'est un écrivain charpentier, c'est de mathématiques marteau qui a dû m'inspirer. C'est un écrivain charpentier, gros lecteur, qui décrit très concrètement son métier. C'est un livre qui m'a réjoui parce qu'il a écrit depuis ailleurs que la bourgeoisie, et ça me revigore toujours un peu. Beaucoup, peut-être. il raconte en fait des chantiers sur lesquels il a travaillé, par exemple un hôtel sur les Champs-Élysées où il a essayé de voler des robinets plaqués or. Il n'a pas réussi. Je spoil, mais il n'a pas réussi. Mais il s'est amusé des chambres nommées Balzac, Proust, Chateaubriand, en disant que peut-être la clientèle n'avait pas lu ces auteurs et que lui les avait lus. C'est écrit dans une langue classique très maîtrisée, ça fait penser un peu à Jean Rouault. Et voilà, si la construction de placard vous intrigue, allez-y. Et si comme moi, elle ne vous intriguait pas, bah, laissez-vous intriguer parce que ça fonctionne.
On redonne le titre et l'auteur ?
Jours ouvrés de Francis Navarre.
Arnaud.
Une fois n'est pas coutume, un livre de photos d'écrivains et d'écrivaines, bien sûr, s'appelle « Des visages et des mains, 150 portraits d'écrivains », par la photographe Anna Assouline, et préfacé par un certain Jérôme Garcin, lequel qui a travaillé en tandem au moment des Nouvelles littéraires avec cette photographe, et il explique comment est née cette idée chez Anna Assouline de photographier non seulement les visages des écrivains, mais aussi leurs mains. Et donc il y a 150 portraits d'écrivains et de leurs mains. Alors évidemment, les plus touchants, ce sont ceux qui ont malheureusement disparu. Je pense à Linda Lay, par exemple, à Anne Dufour-Montel, à Clément Rosset ou encore à Bruno Latour. Voilà, il y en a, ils sont 150. C'est des photos en noir et blanc. C'est magnifique. Voilà. Et les mains, effectivement, vous savez, Rimbaud disait « la main à plume vaut la main à charrue ». Eh bien, bien ce livre en fait la démonstration.
Et je close ces coups de cœur avec une bande dessinée intitulée Formidable, les années de Jack Lang, 1981-1992. Alors, formidable, l'adjectif du titre, c'est celui que Jack Lang affectionne. Mais le livre n'est pas du tout une hagiographie. Le scénario est écrit par Hervé Bourris et Franck Bourgeron. Les dessins sont de Dorothée de Montfred. Et ils se mettent en scène tous les trois pendant les entretiens qu'ils ont eus avec l'actuel président de l'Institut du monde d'arabe et avec sa femme Monique, qui joue un rôle de premier plan à absolument toutes les étapes.
Aussi.
Pardon ?
Elle s'évade aussi.
Oui, c'est vrai. Non, elle ne s'évade pas, elle reste avec lui. Et donc, les trois auteurs, Bourris, Bourgeron, de Montfred, racontent leurs doutes, notamment pour interviewer quelqu'un comme ça, pour contourner les éléments de langage, quelqu'un qui est rompu à la com, il pointe ses erreurs volontaires ou non, un mensonge, puisque Jack Lang dit « Mazarine, non, j'étais pas du tout au courant ». C'est à la fois drôle et précis sur des réformes qui continuent de structurer la vie culturelle française, le prix unique du livre, la fête de la musique, et puis c'est le récit de coulisses de moments historiques comme Mitterrand dans la crypte du Panthéon avec Roger Hanin planqué derrière les colonnes qui lui file des roses qu'il ira déposer sur les tombes de Jean Moulin, Jean Jaurès ou Victor Schœlcher. Donc c'est, je vous rappelle le titre, c'est Formidable, et le nom des autrices et auteurs, Dorothée de Montfred, Hervé Bourris et Franck Bourgeron. Ça a paru chez Casterman. Blandine Rinkel, Arnaud Vivian, Raphaël Léris, Laurent Chalumeau, merci pour vos lectures. Je précise que le prochain enregistrement du Masque n'aura pas lieu un jeudi, mais le vendredi 10 mai, toujours au Théâtre de l'Alliance Française, entre 19 et 21h. Il sera à nouveau question de l'actualité littéraire et de cinéma. Audrey Ripouille et Anaïs Reynard réalisent Le Masque et la Plume, et c'était avec Marie Le Peintre, Clément Berman et Philippe Thibault ce matin. Ilinka Negulesco prépare l'émission avec Célestine Babinet. Toutes et tous, vous donnons rendez-vous dimanche prochain sur France Inter, évidemment.